Comme ça ?
Ah, d'accord, je vois ce qui t'intéresse. Hein ? Évidemment. Hein, c'est la fête des corps.
Attention, je vous interromps, c'est parti. C'est un des parcs. Oh là là.
Que se passe-t-il? Serait-ce à nouveau Satan Dimitri?
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut.
Voilà.
Pas au gaz à roule.
Oh,
get back devant, get back.
Quel pied. Ah, quel pied. Oh, putain. Oh là 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 là.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur l'antenne de Principe Actif, bienvenue dans Ta mère en short, l'émission qui vous parle de sport. Aujourd'hui, comme à l'accoutumée, nous sommes avec l'ami Damien, salut à toi.
Il est là, bonjour.
Nous sommes évidemment avec Philippe, alias la guinche de Rafo l'Indépêche, salut à toi camarade.
Salut, il est là aussi.
Il est là aussi. Moi-même, évidemment, vous m'entendez. Et puis nos invités, à savoir François Godard, entraîneur-moniteur à l'ALM Tennis, ainsi que Annie Pétillon, présidente de ce même club ALM Tennis. Bonjour à vous, messieurs, dames.
Bonjour.
Bonjour.
Puis, un invité qui n'a pas un micro devant lui, mais voilà. qui est le fiston, a priori. Voilà, un petit clin d'œil quand même, une pensée, il est avec nous.
Donc on est assez nombreux ce midi, et du coup, c'est cool.
Carrément, toujours cool.
On parlera de tennis donc en deuxième partie d'émission. On discutera évidemment autour de ce club qui est l'ALM Tennis avec nos deux invités. Pour commencer, comme de coutume, notre traditionnel tour de table sur ce qui a retenu notre attention dans l'actualité sportive de la semaine et du week-end écoulé. Il y aura évidemment plusieurs choses à discuter. Qui veut commencer ? Philippe ?
Philippe, il y a une nuit courte, il va nous raconter pourquoi.
Ah, il a regardé le Super Bowl,
voilà,
non ?
J'ai eu un gros week-end, j'ai eu la chance d'accompagner l'équipe de basket, enfin la chance, oui, c'est un privilège, on va dire, d'accompagner l'équipe de basket pendant deux jours à Boulazac, dans le Périgord, en Dordogne, c'est très joli.
Tu as fait le trajet de manière individuelle ou tu étais dans le car ?
Non, on était dans le bus, on avait demandé à faire un déplacement. On le fait généralement une fois par an, on essaie de faire un déplacement, et là on a choisi un déplacement longue durée justement pour essayer de voir comment vivait le groupe à l'extérieur. On a eu la chance de pouvoir rentrer dans les vestiaires, essayer de voir, et puis il y avait une histoire de challenge parce que c'est la seule équipe à avoir battu l'ALM cette saison.
À domicile,
voilà, donc on voulait savoir s'il y allait avoir un esprit de revanche. Bon bah, je vous raconterai ça, mais on a été un peu déçus. Voilà, et pour le reste, donc effectivement, j'ai regardé le Super Bowl hier soir. On a une petite réunion annuelle avec des anciens. On est allés aux États-Unis quelques-uns. Là, on a fait cette petite réunion tous les ans pour se retrouver, des anciens de fac et tout. Et j'ai vu un super beau match. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu. C'était les Seattle Seahawks.
Contre New England Patriots.
Tenant du titre contre les New England Patriots avec quelqu'un qui vient de battre le. Qui vient d'égaler le record de Joe Montana, qui est quand même une des références, qui s'appelle Tom Brady, et qui a délivré 12 touchdowns maintenant en Super Bowl, qui est le record de Joe Montana était de 11, et il a gagné hier son 11e, mais sur un coup du sort extraordinaire, c'est-à-dire que les Seahawks avaient la balle de match à 5 yards de l'embute, il restait 20 secondes à jouer, et ils avaient 4 possessions pour gagner, et le quarterback, alors on ne sait pas si c'est sa décision ou si c'était une décision des responsables des escouades offensives, a décidé de faire une passe au lieu de chercher la course alors qu'ils étaient royaux au niveau de la course, et elle a été interceptée. Donc c'était horrible comme finale, et même Brady ne pensait plus gagner, donc ce qui fait qu'il y a une grosse explosion et tout ça. Qui joue à la mi-temps avec Katy Perry et
Lenny Kravitz,
qui était quand même. Bon, c'était américaine.
24-22, c'est ça ?
On imagine bien.
Hein ? 24-22 ou 26-24
Il y a 4 points d'écart, je crois, à la fin. Donc, ça doit être. Il y a 4 touchdowns, donc 24-20, ça doit faire. Ouais. Mais c'est un très, très beau match. Très, très sympa. Non, c'est pas ça. C'est 21-24. C'est 28-24. Voilà, exactement.
Voilà. Super Bowl.
Super Bowl.
C'était à quelle heure ? Parce que c'est à chaque fois, c'est minuit, en pleine nuit.
Ça commence en fait, officiellement, il y a une prise d'antenne à minuit. Là, il n'y a que W9. Avant, il y avait ESPN America qui retransmettait en VO. Là, cette année, il y a la seule chaîne française, c'est W9 qui l'a retransmettait. C'était très bien fait. C'est Richard Tarditz là, qui a fait partie des escouades offensives, défensives des
de
Patriots.
New England, d'ailleurs.
New England, à une époque où New England était nul, c'est ça qu'il disait. C'est que dès qu'il est parti, ils sont devenus bons. et donc, qui commentait avec Didier Coueffé, je crois.
Ah oui.
Et c'était pas mal, c'était bien, c'était assez animé, c'était plutôt sympa, bien. Puis avant, il y avait le hand, donc ça, c'est une belle journée.
Et avant, c'était diffusé sur France 2. Il y a eu une époque où c'était diffusé sur France 2,
ouais, le Super Bowl. Je crois qu'ils avaient fait une émission. Mais là, c'était plus. Ça se voulait trop grand public, t'as raison. Ouais, ils l'ont fait à un moment sur France 2.
Pour la chaîne publique, c'est compliqué de gérer le Paris-Dakar, le Tour de France. Tu te rends bien compte, Guy Moquet.
Ils le font généralement bien quand ils le font.
Moi, je vous ai laissé le hand, parce que j'ai vu le hand aussi qui était très bien, mais je vous le laisse, je pense.
Je veux bien qu'on en parle, mais moi, j'ai même pas vu la finale. J'ai regardé un petit bout de la demi, mais j'ai pas suivi la finale. Je sais qu'on a gagné, je sais que c'était pas si évident que ça.
Non.
On avait déjà pointé du doigt la semaine passée l'équipe qatari particulière. T'as pu regarder le match?
Oui, j'ai regardé après le rugby. Là, on est allé au rugby pour se réchauffer. Je suis rentré chez moi pour voir la finale sur TF1 qui avait gagné les droits. Là. Et pareil, c'était plutôt bien commenté. C'était, comment il s'appelle
Gardant,
ouais. Gardant, l'ancien qui est maintenant le coach de Paris qui commentait avec je ne sais plus qui. Et c'était plutôt un bon match. D'ailleurs, c'était assez surprenant parce qu'ils n'ont jamais été très à l'aise. Les Français ont toujours été devant, mais entre un but et 4 ou 5, je crois qu'il y a eu peut-être 5. Non, je crois qu'il n'y avait pas eu 5, c'est du 4.
4.
Et en fait, bon, le seul truc, c'est que l'équipe qatari en face, il y a pas de qatari.
Il doit y en avoir deux, c'est ça.
Il y a deux. Il y a un qui avait même eu le titre avec l'équipe de France en 2011. C'est extraordinaire aussi. Enfin, et les gars étaient, enfin, donc c'est que des mercenaires. Hein, ils avaient une naturalisation express avec, je crois, 100 000 dollars à la clé, 120 000 dollars par match et 1,2 million en cas de victoire à la fin. Si on appelle ça des équipes nationales, moi je comprends plus rien. Quoi. J'espère qu'ils vont revoir vite fait cette façon d'arranger les choses. Ça ressemble à rien. Quoi.
J'entendais l'entraîneur actuel de Montpellier qui avait à peu près cette même réflexion, qui allait même plus loin, qui disait à ce moment-là, on n'a qu'à faire un championnat du monde des clubs, ça ira plus vite.
Voilà, ouais, c'est exactement ça. Là, c'est vrai que ça ressemble à rien. Hein, je ne doute pas qu'il y avait des intérêts autre que le sportif dans cette organisation-là, mais c'était vraiment, enfin, ça ressemble à rien. Par contre, au niveau du hand en lui-même, c'était une belle équipe. Hein, et ils avaient des anciens joueurs du pays de l'Est, des Espagnols, coach espagnol, deux trois. Je crois qu'il y a un ancien Égyptien. Ça joue au hand.
Ils n'avaient pas volé leur place en finale.
Le gardien était plus fort, même d'ailleurs, je pense, qu'au meilleur sur la finale.
Le gardien du FC Barcelone.
Ouais, c'est Barcelone. Hein, donc non, c'était ils n'avaient pas volé leur place. Les arbitres ont été très bons.
Ouais, ce que
dire. Parce que franchement, ceux qui se plaignent, les Polonais se sont plaints en demi-finale parce qu'ils ont même encerclé les arbitres pour les applaudir à la fin, tellement ils étaient. Manifestement, ils se sont fait voler, mais j'ai pas vu le match, donc je peux pas trop en parler. Mais là, pour le coup, l'arbitrage était très bon, très cohérent du début à la fin. Voilà, il y a peut-être des erreurs, mais ils étaient des deux côtés. Donc voilà, c'est quand même cinquième titre, hein, c'est énorme. Faut en parler de la longévité du sport du handball. C'est vraiment le sport français par excellence, hein, là où on est les plus forts au niveau des sports collectifs, hein, c'est là où on est les plus forts depuis de nombreuses années. Là, cinquième titre de suite, une qualif assurée pour les JO.
Des jeunes qui arrivent.
Je crois
que ça a été souligné hier.
Il y a Kevin Mahé, le fils Quentin.
C'est Kevin.
Non. C'est Kevin, je crois. C'est Kevin Mahé, non?
Ou Kevin, ou c'est Quentin avec un K, peut-être.
Quentin avec un K, alors. Ouais, d'accord. Ah, j'aurais dit qu'il s'appelait Kevin.
Fils de Pascal.
Je préfère Quentin, voilà. Puis le Pascal Bailly qui était joueur au lycée d'État d'Evreux. Hein. C'est quand même chouette quoi, de voir que tu as une relève comme ça qui est assurée, une sorte de transmission. Puis avec un super coach, parce qu'Onesta, il est extraordinaire. Avec Dinard, maintenant, qui est à ses côtés, qui prend de plus en plus d'importance, qui s'est fait dépouiller sa chemise. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de voir ça. Hein. Mais assez excellent.
Ouais. C'est incroyable cette longévité d'ailleurs d'Onesta. Quoi. C'est la première fois que j'ai l'impression que dans le sport français on voit un entraîneur qui dure. Ça
déjà
fait combien
Constantini
de temps
Constantini avant Constantini avait, avait fait mais, quelques années.
Mais je trouve que déjà c'était dur de prendre la succession de Constantini parce qu'il avait ouvert la brèche. Et tout le monde dit que ça va être difficile derrière. Mais surtout ce qui est très fort, c'est qu'il a un recul. C'est-à-dire justement, il sait se mettre en arrière, il sait laisser les joueurs s'exprimer au temps mort. C'est assez impressionnant parce qu'il dit deux, trois choses. Les gars parlent entre eux et tout ça. Il y a Dinard qui prenait de l'importance et lui il cadre les choses. Il a un flegme vraiment impressionnant. Je trouve que c'est super parce qu'il a vraiment une dimension ce gars-là. Il est vraiment puis il est intéressant.
Il a du coffre même dans la voix. J'aime beaucoup. Marrant, en tout cas, ça a été souligné hier par les commentateurs sportifs. C'est vrai que faut saluer le travail des éducateurs et des clubs en France qui alimentent cette équipe, mais qui au quotidien travaillent pour permettre à cette équipe jeune, puisque pour certains c'est quand même très jeune, de se renforcer. Donc ouais, une belle victoire. Vous avez pu regarder vous aussi d'ailleurs un petit peu le handball ou...
Moi, j'ai regardé bien sûr. J'ai pratiqué le handball pendant une petite vingtaine d'années, il y a pas mal de temps maintenant. Et puis bien sûr, je loupe aucun match de l'équipe de France.
C'est le Karabatic d'Evreux. Hein.
On joue au même poste, mais bon, un petit peu plus de talent que moi.
C'était au niveau de la barbe. je
moi, je noterais quand même une chose. Par rapport aux années précédentes, qui suit aussi un peu l'équipe de France, je trouve qu'on est un petit peu moins flashy en attaque, où on a pu voir, nous, on a été quand même... On a remis au goût du jour les kung-fu, les roucoulettes. Je trouve qu'on avait un côté un peu foufou en attaque, l'équipe de France. Bon, ça Anctil à l'époque. Bon, Abalo amène
Il n'était pas là.
Il amène un peu cette frénésie en attaque. Par contre, je nous trouve vraiment maintenant... mais toujours très fort en défense, parce qu'on cite Thierry Omeyer, je veux dire, les frangins Karabatic derrière, ça fait du boulot. Cédric Sordano, il envoie aussi du bois derrière. Vraiment, il y a cette espèce de confort défensif qui fait qu'on n'est pas en panique. Quoi.
Je crois qu'on a une ligne déjà, une ligne derrière la meilleure du monde.
Ouais, clairement.
Hein, que ce soit à droite avec Barraché ou bien à gauche avec Narcisse, en demi Karabatic. Karabatic et Narcisse ont fait un match exceptionnel, je trouve.
Clairement.
Et en défense, effectivement, avec la rentrée en défense de Lucas Karabatic, le frère de Nicolas, c'est énorme. Quoi. Et on prend 22 buts en finale, on prend autant de mi, donc très peu de buts marqués en fait, sur ce type de match-là. Ça reflète vraiment la nature et la force de cette défense. Hein, voilà.
Et puis on a vraiment l'impression qu'en plus ça peut durer longtemps comme ça.
Derrière, il y a le dernier rempart, c'est Thierry Omeyer qui fait encore un mondial exceptionnel à 38 ans. Bon, voilà,
il a été élu meilleur joueur du tournoi. Ouais,
meilleur gardien, je crois que c'est Karabatic meilleur joueur, d'accord. Mais meilleur gardien. Et je pense que hier, c'est pas lui le meilleur. Je pense qu'en face, le gardien en face est meilleur, mais il a fait quand même les 2-3 arrêts à la fin qui rassurent tout le monde au moment où il faut les faire. Quoi. Il a été. Et ça, c'est vraiment très bien. Mais je pense qu'au-delà même de la défense, ce qui est bien impressionnant, c'est la force mentale de l'équipe. Parce qu'ils ont une confiance en eux, mais c'est pas une confiance pédante. Quoi. C'est-à-dire que les mecs, ils se remettent toujours en question. Ils ont toujours su se renouveler et tout ça. C'est vraiment très bien. Ça, c'est fort.
Et en plus, ils intègrent régulièrement des jeunes joueurs. On joue avec Quentin Mahé.
C'est Tien Guessant aussi qui va arriver, qui est du département. L'oublier, lui, qui fait partie du groupe, qui arrive petit à petit.
Gribil aussi, qui s'est blessé à l'acromo. Mais sinon, voilà, c'est super. Quoi. Je pense qu'on peut avoir confiance en l'avenir aussi. Quoi.
Ouais, c'est beau. Elle est belle, cette équipe de France. Parce qu'en plus, elle est très respectueuse de son adversaire. Voilà, sa force tranquille, elle est belle à avoir joué. Et vous, avez-vous retenu quelque chose dans l'actualité sportive récemment, nationale ou internationale, ou même au club hein,
Ah, alors, donc, j'ai pas pu suivre, moi, la finale de hand, puisque j'étais de permanence au club pour un championnat de district de jeunes. Donc, il y avait le match final qui se jouait, donc j'étais présente. Et donc, les deux joueurs de cette finale sont qualifiés pour les championnats de l'heure. En 12 ans, garçon.
Ils sont issus de quel...
Alors là, c'était un jeune de Verneuil, sur Havre, et puis un jeune de chez nous, donc qui malheureusement a perdu, mais qui jouait contre un jeune mieux classé que lui. Mais il est qualifié quand même pour les championnats de l'heure.
Ça s'appelle comment ?
Il s'appelle...
Alexandre
Meuf. Oui.
Qui est classé 30, là, actuellement.
Ouais, 30, et il a été battu par un 15-5.
Voilà. D'accord.
Qu'on revienne peut-être tout à l'heure sur ces ou même maintenant, parce que ces classements, j'ai jamais vraiment compris comment se classaient les joueurs au tennis.
Premier classement, 35 ou 34, je sais jamais.
Alors même pas, maintenant c'est 40.
Ah, d'accord, donc, ça a changé.
Alors, le classement français, il y a 4 séries, c'est décomposé en 4 séries, donc la 4e série c'est le plus bas, donc c'est 40, 35, 34, 33, 32, 31. Et il y a non classé aussi, juste avant, quand on ne fait pas du tout de compétition, donc non classé. Ensuite, à partir de 30, on passe en troisième série, donc 30, 15-5, 15-3, 15-2, 15-1, 15-1, voilà, ça c'est la tête de troisième série. Et à partir de 15, on rentre 4-6. En seconde série, 15, 5-6, 4-6, 3-6, 2-6, 1-6, 0, moins 2, moins 4. Donc, après, il y a quelques changements, il y a la première série A, première série, deuxième série A, deuxième série B avec moins 15, moins 30. Et après, on rentre en promotion. Promotion, c'est les 50 meilleurs joueurs français jusqu'à 20 ou 30, je crois. Et ensuite, première série nationale, c'est du numéro 30 au numéro 1 français.
Voilà. Et on acquiert des points.
Les joueurs de première série, même certains joueurs de seconde série, participent à quelques tournois internationaux, soit en futur, soit au niveau européen. Et ils glanent des points pour rentrer dans le classement ATP ou WTA si c'est une femme.
Et ils ne sont pas forcément tous professionnels, ou si c'est à partir de ce niveau-là, grosso modo, qu'on devient pro ?
Alors, ils ne sont pas tous professionnels. quand on... certains joueurs, notamment en première série, des jeunes joueurs en première série, sont issus des pôles France, qui sont installés aux quatre coins de la France. Et là, ils reçoivent une bourse qui permet de voyager avec les entraîneurs. Voilà, ils sont comme si c'était professionnel, mais ils voyagent en groupe. Voilà, et après, c'est très compliqué quand on veut devenir vraiment professionnel, avoir un coach à soi, parce qu'au niveau du financement, ça représente une somme assez colossale. Donc, on est vraiment pro, à partir du 10e joueur français. Et sinon, les autres, on essaie de trouver des structures regroupant quelques joueurs, former un team pour pouvoir voyager en groupe et limiter les frais. Voilà.
On rappelle que dans l'acquisition des points, je ne sais pas si ça a changé ou non, mais lorsque, par exemple, un 15-5 bat un 15-5, il y a un nombre de points oui. qui lui va bien. Mais si, par exemple, il y a toujours le terme de perf, c'est-à-dire un 15-5 qui bat un 4-6, il y a plus de points.
Oui, tout voilà. à fait. Quand on bat un joueur classé juste au-dessus de son classement, on marque un certain nombre de points. Et deux classements au-dessus, un petit peu plus. Voilà. Mais c'est limité à deux classements au-dessus, ces bonus, parce qu'après, il peut y avoir des dérives au niveau des joueurs. Et comme ça se passe dans certains matchs de professionnels, il peut y avoir des arrangements. Donc, on limite à victoire à deux classements au-dessus. Mais il y a aussi parfois ça a été rétabli depuis quelques temps, des points négatifs quand on perd à un classement en dessous.
Voilà, il y avait
voilà.
ça.
Donc ça existait il y a une vingtaine, trentaine d'années, ça a été rétabli il y a un ou deux ans.
Ouais, parce qu'il y avait l'histoire aussi de joueurs qui n'auraient pas joué pendant par exemple une saison, voilà. qui démarrent très haut dans les voilà. classements, très bas, mais très haut dans. Voilà. Et qui du coup auraient des perfs incroyables et auraient récupéré des points incroyables.
Mais depuis, quand il y a des joueurs dans ce cas-là, on essaye à travers les comités et les ligues de redonner un classement administratif aux joueurs afin que ces joueurs-là ne perturbent pas les tableaux et ne passent pas en trombe tous les tours. Donc on les réassimile à un classement.
C'est agréable de savoir du coup qu'il y a des échanges entre pôles, entre quoi ? Entre comité de l'Eure, comité de la Seine-Maritime ?
Oui, tout à fait. On est régi, donc on fait partie de la Fédération Française de Tennis. Et après, en descente, c'est les ligues qui reçoivent les subventions de la Fédé, qui sont redistribuées après, ces subventions à travers les 5 comités départementaux, puisque ça concerne la Normandie. Donc, ils sont l'Eure, la Seine-Maritime, le Calvados, la Manche et l'Orne.
D'accord.
Voilà.
C'est complet. Voilà. Est-ce que vous avez retenu autre chose ? Parce que moi, j'en ai une petite aussi.
Oui, moi, j'avais deux points, mais je t'en prie.
J'ai regardé précisément le prochain adversaire de la LM Évreux, puisque Évreux va jouer Saint-Quentin en tennis demain. C'est bien ça. Hein.
En basket, bien sûr.
Pardon, je suis passé la
plus
balle jaune à la balle orange.
Que basket, ouais,
Saint-Quentin qui du coup a une chaîne locale télé qui va retransmettre les rencontres à domicile. Donc j'ai pu assister à la rencontre entre Saint-Quentin et Le Portel. Donc match plutôt intéressant. Le Portel qui de vous à moi s'incline je ne sais comment puisqu'il menait de 5 points à 6 points même à une petite minute de la fin de la rencontre. Ils ont balbutié leur basket, très mal géré 2 ou 3 attaques. Ils ont eu facilement la balle de match à 3 reprises et ils perdent des balles très bêtement. Voilà, donc du coup victoire du Portel. Ce qui me laisse moi en tout cas de bon augure cette rencontre à venir demain à Évreux puisque Saint-Quentin est très honnêtement accessible
vendredi à notre
niveau. Maintenant, un match, c'est un match. Et Saint-Quentin, ils nous avaient battus chez eux à l'aller. Voilà. Ouais.
Et puis moi, parce que j'ai vu, je peux te dire que je ne suis pas forcément aussi confiant que toi. Mais, ouais. Mais voilà.
Mais c'est une équipe qui est dans nos standings.
Ouais. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est une équipe de nous, Évreux, ça réagit généralement plutôt bien à domicile. Là, bah, là il va y avoir 2 matchs difficiles. Bon, on en parlera tout à l'heure, hein, mais il y a Baba Carnion qui ne va pas jouer les 2 premiers matchs, qui se fait opérer vendredi du poignet droit. Pour un problème, tiens, justement, un problème qui est assimilé généralement au tennis, c'est un tendon qui est sorti de sa gaine au niveau du poignet lors d'un entraînement. Et en fait, il va être opéré à la clinique du sport. Et donc, il ne jouera pas. Donc, ce qui fait qu'on aura une rotation minimale.
C'est si court que ça, le délai de
qui va être mis sur le côté. Ouais. Il paraît que c'est assez rapide. 4 semaines d'arrêt, normalement, pour rejouer.
D'accord.
Il n'y aura pas de pigiste, bien entendu, parce qu'on n'a plus de pigiste maintenant. Il n'y a plus qu'un seul contrat, donc, et puis il n'y a plus de sous, après ce que j'ai compris. J'ai déjà l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup déjà à la base, même si beaucoup de sports
à côté. Mais
par rapport aux autres équipes qu'on rencontre, on a l'impression d'être vraiment le parent pauvre. Je vous en parlerai plus longuement tout à l'heure.
Allez, j'en profite.
Le match de foot d'hier soir.
Ouais, coup de gueule.
Comment tu fais pour le regarder?
Non, mais je sais que la Ligue 1, c'est pourri. Oh, je regarde la première Ligue.
C'est pas terrible.
Non, mais ouais, souvent,
la mission pour nous, c'est de regarder les matchs de foot.
Il m'arrive le week-end. Là, c'était pas le cas ce week-end. Mais de regarder un peu la première Ligue, parce que c'est diffusé sur la même chaîne cryptée, sans la citer. Voilà, la première Ligue anglaise. Là, il y a du spectacle. Là, on s'ennuie pas. Les petites équipes, elles mouillent le maillot jusqu'au bout. Il y a toujours les arrêts de jeu. On sait qu'il va y avoir un but venu d'ailleurs. Enfin, il se passe toujours un truc. Le match de dimanche soir en Ligue 1, c'est vraiment tout pourri. Il faut arrêter. Il faut, je sais pas, ils ont qu'à aller jouer un autre jour. C'est peut-être le dimanche, le jour de la messe, ça les inspire pas. Mais
alors, il y avait un match en jeu aussi, peut-être. Il y avait le match était fermé.
Justement, quand il y a de l'enjeu, on fait en sorte qu'il se passe quelque chose. Quoi. Là, c'était pitoyable. Et c'est deux équipes, le leader contre cinquième, je crois qu'ils étaient, Monaco. Lyon premier, Monaco cinquième. Normalement, voilà, c'est ce qui se fait de mieux en France, ou presque. Eh ben, on n'a rien vu. On s'est ennuyé ferme. Et autre coup de gueule contre le foot, on en avait déjà un petit peu parlé à la CAN, mais l'arbitrage du match Guinée-Équatoriale contre la Tunisie, j'ai pas vu le match, mais visiblement c'était honteux. Un pénalty sifflé en fin de match qui envoie les deux équipes en prolongation, où il n'y a jamais péno, enfin voilà. C'est pas la première fois, donc la Guinée évidemment se retrouve maintenant en
demi-finale,
voilà, exactement, contre le Ghana, là, prochain match. En espérant que voilà, l'arbitrage soit un peu plus objectif, si c'est possible. Pour se rincer, j'ai quand même regardé un match beaucoup plus sympa entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie. Mon cœur balance entre les deux. Voilà, la Côte d'Ivoire s'est imposée 3-1. Ça permettait de se rincer et de penser à autre chose, parce que c'était assez scandaleux, quoi. Arbitrage, on va pas dire à l'africaine, ça voudrait rien dire, et on est capable de la même chose en Europe, mais quand même, il y a des limites, quoi.
Sort de ce corps,
Eric Zemmour.
Ou Guy Stéphan. Non, j'ai rien dit.
C'est pas trop le genre de la maison d'habitude, mais.
On s'accorde une petite pause de musique.
Très bien.
Et puis on revient justement sur l'ALM, et puis on prendra le temps ALM x2, puisqu'on reçoit l'ALM tennis, on vous rappelle.
Led Zeppelin, évidemment.
Bien
Immigrant
sûr.
Song. On enchaîne avec les résultats locaux, ouais. Avec ce qui s'est passé un petit peu dans le monde et l'univers sportif et des hébroïciens, tout simplement. Deux, vous vouliez peut-être commencer.
Ouais, on a eu les petits textos qui vont bien, hein, des coachs qu'on a reçus récemment, ou en tout cas en cette émission. On pense par exemple à Jeff, l'entraîneur de à la fois l'équipe de basket amateur nationale 3 de l'ALM, et aussi coach de l'EAC basket féminine en pré-régionale, en excellence régionale. Donc deux défaites malheureusement, 77-51 pour la nationale 3, face à une grosse équipe de Fécamp. Bon match de notre côté tout de même, mais pas suffisant, dépassé physiquement. Fécamp est deuxième de la poule et file, et voilà. Petite anecdote, je crois qu'ils étaient qu'à moins 5 à la mi-temps, malheureusement. D'autre part, du côté de l'EAC Basket, eh bien, c'était le premier contre le deuxième. Défaite 61-74 face à César Le Vilain, donc qui était premier. Défaite logique face à une équipe bien plus jeune et bien plus à droite que nous. Il espère un sursaut la semaine prochaine des deux équipes.
Dans la même poule, on en avait pas encore beaucoup parlé. Il y a aussi Évreux-Netreville, qui s'est pris une petite dérouillée aussi contre le Havre, 60-33 de mémoire. Voilà.
On a aussi le Prolix, parce qu'on ne peut pas le qualifier autrement, entraîneur des Verts de Saint-Sébastien de Morsan, l'équipe de handball, hein, Prénat, et ça sent bon, hein, effectivement, ça sent bon. Victoire de Saint-Sébastien, 30-22 contre la Créa Wassel.
Qu'il adore.
Ah ouais, qu'il adore, forcément. Sûrement, pour lui, la meilleure équipe qu'il ait rencontrée jusqu'à présent, mais aussi la meilleure prestation pour lui, collective de son équipe. Une défense, une nouvelle fois, héroïque, et un Adèle Gami, de l'énonciation, de nouveau omniprésent. Présent dans les buts, c'est vrai qu'il l'avait souligné la semaine passée. Un vrai beau match, de nombreux spectateurs présents qui se sont régalés. Ensuite, ils ont regardé la finale sur écran géant avec leurs adversaires et supporters. Ils ont tous, d'ailleurs, et ça lui fait plaisir, et on est tous handballeurs, comme dit le slogan de la fédération. Et ben c'est, je trouve, une belle manière de le célébrer, le sport de haut niveau, de regarder un match d'équipe de France avec son adversaire du jour. Je trouve ça quand même très classe. On a ensuite Cherbourg, c'est de nouveau incliné. Il nous donne l'information, cette fois à domicile, contre le HBBCE. Du coup, la route
là, je pense. Ils ont lâché.
La route de la nationale est grande ouverte, mais attention à la sortie de route. On a 4 points d'avance et un match de retard. La vie est belle. Nous avons maintenant 3 déplacements consécutifs à gérer. Si on fait le plein, on y sera presque. Et il conclut par « J'ai l'impression qu'on progresse collectivement à chaque match. Les garçons sont impliqués comme jamais. On est vraiment sur la bonne voie. » Ça fait plaisir. Je pense qu'il y a un super groupe et qu'il y a un super entraîneur.
Et puis là, je pense qu'au-delà, par rapport aux années précédentes, ils maintiennent le cap. Ils craquent pas. Je pense que là ils ont confiance en eux, quoi. Ils sont pas à l'abri. Ils peuvent perdre même un match ou deux, quoi. Ça, il n'y aura pas de drame.
Ils ont le droit à un joker.
Voilà. Et donc, ils en ont deux. Ouais. Puis je pense qu'ils sont bien partis. Ouais, c'est très bien.
Un petit peu de rugby, le AC Rugby s'est incliné, l'équipe Aïe. A contre Marc-en-Barœul, 22-16, pardon. Ça s'annonce délicat.
J'ai vu la fin de match, la deuxième partie et donc je suis arrivé, ils menaient encore d'un point, ils ont pris un essai, ils en ont pris un deuxième derrière. Heureusement, ils n'ont pas été transformés, donc ils ont récupéré quand même un point de bonus qui va être important parce que tous les points sont chers. Mais ils sont mal barrés. Alors, ils ont beaucoup de courage, ils ont fait une très bonne fin de match. Ils ont contesté un arbitrage qui a mis un carton rouge, a priori justifié pour une piche de comment il s'appelle, pas d'Acosta. Je me rappelle plus, mais donc il y a une piche qui est partie et puis donc il a pris un rouge. Ils ont joué un moment à 12, je crois même, parce que je crois que il y a deux cartons blancs et le rouge qui arrive dans la foulée, mais je crois que l'autre rentre. Enfin, ça se joue très peu de temps. Mais par contre, ils terminent sur une grosse domination pendant. Ils sont sur 10 minutes à la fin. Il y a un mauvais choix sur la dernière passe, mais ils ont bien contrôlé le ballon à la fin. Et je parlais avec l'ancien capitaine Lozier qui me disait que ils se battront jusqu'au bout. Et je pense que c'est sincèrement, ils sont pas touchés. Ils sont très déçus, mais ils ne sont pas touchés par le fait qu'ils ne marquent pas de points et ils vont essayer d'aller gagner à l'extérieur. Alors c'est là-bas que ça se jouera. Ça se jouera à Hérouville, à Armentières, où ça sera super difficile. J'espère qu'ils sauront se montrer aussi convaincants à l'extérieur qu'ils le font à domicile. Mais je pense que c'est un peu le syndrome de la LM Basket aussi. J'ai l'impression que c'est beaucoup moins fort quand ils sont loin de chez eux. Il y a un match contre Versailles dans 2 semaines. Qui pourrait être intéressant, justement, parce que c'est l'ancien joueur d'Evreux, Mathieu Queval, qui entraîne Versailles. Si Versailles n'a plus grand chose à jouer d'ici là, on peut penser qu'ils sont peut-être moins motivés, voilà. Mais bon, voilà, c'est pas beau. Hein.
On essaiera d'avoir Kevin prochainement au téléphone ou en petite pastille pour faire le point. Juste à noter que la B, elle, par contre, l'équipe B s'est imposée contre cette même équipe de Marc-en-Barœul, 24-20. Voilà. Sur
volleyball.
Son coup. Ouais, le VB.
Ouais, ça gaze, hein.
Ouais, victoire 3-7-0 contre Argenteuil.
Enfin, on leur a pas que bon, c'est des équipes qui sont de bas de tableau, mais ils enchaînent les
succès. Enchaînent,
et puis surtout, ils laissent plus de 7 en route. Là, c'est vraiment très bien. Et là, ça y est, maintenant, ils sont sur le podium. Hein, ils sont premiers ex aequo. Ils sont rattrapés Mougins, je crois. C'est bien. Hein, c'est vraiment pas mal. Et ça prouve que le travail qui a été fait, sur lequel on avait quelques doutes en début de saison, parce qu'on trouvait que ça manquait de cohérence, tout ça, bah, ça paye.
Ça
comme
paye.
Quoi, voilà, ils ne font pas de bruit, mais ils sont très bien.
C'est bon pour moi.
Je crois qu'on va parler basket un petit peu.
On le rappelle, hein, la LM Évreux se déplace à Boulazac. C'était samedi, c'était le dernier jour de cette journée de championnat. Le dernier match, pardon, de cette journée de championnat. C'était retransmis sur la LNBTV. On va pas la critiquer parce que c'est bien de nous offrir quelques images, même si la qualité n'est jamais très bonne, il faut avoir une bonne connexion Internet. Et puis, il n'y a pas de commentateur et puis c'est en plan fixe. En même temps, il vaut mieux ne pas en avoir que des mauvais dans l'absolu.
En fait, la LNBTV, ils utilisent le réseau des salles sur place. C'est-à-dire, Saint-Quentin est équipé et puis Boulazac est équipé. Boulazac, il y a une caméra qui retransmet le match en direct sur les deux écrans géants parce que la salle est assez grande. Et en fait, on voit les mêmes images que tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, ils filment l'écran géant, en fait. Je prends ça. Ou ils utilisent peut-être la connexion, mais c'est tout.
Du coup, un déplacement compliqué parce que, en fait, là où Konaté n'est pas de la partie, grippé malheureusement.
Grippe, on le savait dès le départ, on l'a annoncé grippé parce qu'il ne souhaitait pas trop communiquer dessus, mais effectivement, il avait la grippe, il était couché depuis le mercredi, donc on savait qu'il n'allait pas jouer.
Et puis un Babacar Niang qui a joué quand même.
Et c'est lui qui a demandé à jouer, hein. Il avait le droit, le médecin a souhaité l'arrêter, lui il a préféré donner un peu de temps de jeu, il a joué 9 minutes, il savait de toute façon qu'il se faisait opérer après, il a eu un gros strapping qui l'a gêné, mais c'est cool parce que.
Quitte à se flinguer le poignet, il se fait flinguer quoi.
Je trouve qu'il y a pas mal de jeunes maintenant qui se comportent un peu comme des toutounes, dès qu'ils ont un bobo, ils arrêtent. Là, pour le coup, le gamin, il a voulu jouer et il s'est débrouillé. Bon, il a fait 0 point, mais il a donné de sa personne. Il a permis aux intérieurs de gérer les fautes parce qu'on a eu beaucoup de fautes en arbitrage qui étaient encore peu difficile là, sur les intérieurs parce qu'il siffle 2 fautes offensives à Tig parce qu'il est très massif, mais en fait il fait pas plus fautes offensives que l'autre ne fait une faute en défense. C'est-à-dire on devrait les laisser s'expliquer et ça resterait beaucoup plus intéressant. Mais là il y a toujours le match qui sont toujours hachés. C'est le problème de la Pro B maintenant à 2 arbitres, c'est que voilà, on a tendance à trop pénaliser. Et donc il a donné un peu de temps de jeu là-dessus, mais bon. Ça n'a pas suffi.
Résultat des courses, une entame un peu dure.
Tout est planté. En fait, il y avait un plan de jeu qui était très simple. Nous, on avait participé justement à ce que je vous disais tout à l'heure. On a participé
à la causerie,
tout ça. Et le plan de jeu était très simple et avait été travaillé pendant toute la semaine. C'est faire le slow ball, c'est-à-dire de ralentir un maximum le jeu, de donner un minimum de possession, de jouer. Alors, le score final donne raison à ça. C'est qu'en fait, ça se joue sur des peu de possession et encore qu'il y a eu pas mal de maladresses, mais normalement il devait limiter les équipes à 60 points à peu près et faire en sorte que de contrôler le ballon. Et premier quart-temps, on perd 7 ballons, 6 joueurs différents. Voilà, c'est tout est foutu en l'air dès le premier quart-temps, en fait. Même si après, t'es qu'à 5 points à la fin du premier quart-temps, mais en fait, tu sais très bien que l'équipe, elle n'est pas rentrée dans le match comme elle doit le faire. Elle n'est pas concentrée. Elle n'a pas le niveau d'exigence que tu dois avoir quand tu prépares un match comme ça. Qui plus est, quand c'est une revanche, tu t'annonces là-dessus. Et tous les matchs avaient lieu la veille, en fait. Donc, ils savaient très bien qu'il y avait une belle opération à faire pour si tu battais Boulazac, tu te remettais dans la course au top 8. Parce qu'il faut raisonner top 8 maintenant plus que top 9 parce que la 9e place, elle est toujours pour l'instant susceptible d'être prise par Sofel s'il vient à battre Antibes en finale de la Coupe Mickey. Et donc si on se dit il y a beaucoup à jouer. Et là, tu vois un vestiaire, enfin, on a assisté à un vestiaire qui est
apathique.
Bah, atone, voilà, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de cinglé, quoi, il n'y a pas de gars, il n'y a pas de meneur, il n'y a pas de leader. Enfin, c'est le cri de guerre, j'ai au dictaphone, le cri de guerre, c'est 1, 2, 3, ensemble. Voilà. Je vais nous le refaire, vous ne l'avez pas entendu, mais c'est ça. 1, 2, 3, ensemble. Voilà, il n'y a rien. Ils ne parlent pas, ils sont gentils, mais ils ne parlent pas. Et je pense que ça va être le vrai problème de cette saison, c'est qu'il n'y a pas de leader, ça manque de charisme, ça manque d'orgueil, c'est des bons gars, ils ont du talent, mais je pense qu'ils n'ont pas ce côté qui fera que ça sera une bonne équipe de basket.
Ouais, parce que défaite, du coup, 66-54.
Ce qui n'est pas honteux. Ils sont toujours derrière, hein, ils ne reviennent jamais sous les moins 10. Hein, ils égalisent plusieurs fois, ils reviennent à moins 10 plusieurs fois, mais ils ne sont jamais en mesure vraiment d'inquiéter l'équipe d'en face. Alors qu'en fait, ils les gênent beaucoup en défense. Hein, ils gagnent la deuxième mi-temps, ils font un troisième carton, je crois.
Ah, parce que Boulazac sont souvent autour de 80-90 points.
Il y a 6-12 dans le troisième carton. Donc Boulazac ne marque que 6 points mais en fait à côté de ça il n'y a pas un gros talent offensif. Déjà bon, il manque Pierre-Étienne Rouault, il manque Laou Konaté, donc c'est pas facile. De Guillaume a shooté deux fois trois points, il marque deux fois trois points. Ça, Guillaume, si tu pouvais en shooter un peu plus, ça serait bien. Cool, hein, ouais. Si tu m'entends, vas-y, parce qu'il est super à droite. Tu le vois dans le shooting du matin. C'est un métronome. Il prend des bons tirs. Enfin, il est super à droite. C'est un gars qui est naturellement à droite. C'est vraiment dommage. Mais je pense qu'au-delà de ça, il y a vraiment un vrai problème de le meneur qui est Glenn Causey, qui est très très bon à domicile. Mais là, bon, là, il avait un traitement spécial parce qu'ils l'ont isolé de l'équipe rapidement. Mais il ne sait pas se démarquer, il ne sait pas faire autre chose, quoi. Il ne sait pas jouer pour l'équipe. Enfin, tu vois, il est jeune dans sa tête. Alors peut-être qu'effectivement, il deviendra un bon meneur, mais je pense que ça, pour l'instant, c'est plutôt quelqu'un qui est très centré sur lui-même et pas assez ouvert vers l'extérieur, vers le groupe.
Sûrement.
Et c'est dommage parce que là, on manque clairement de.
Alors du coup, c'est pas terrible cette défaite 66-54 au classement, puisque ça nous fait retomber du coup à la 9e place.
On y était, en fait, on bouge pas. Hein,
avec Nantes Portel.
Et Nantes qui va être plus difficile maintenant à prendre. Ils ont pris Patchalis Morland, là. Ils viennent de mettre une grosse toutoune c'était une belle équipe.
Nantes, ils ont battu Rouen. Oui, mais Rouen qui est très
handicapé. Mais voilà. Mais voilà, c'est des matchs qui comptent pour eux. Je pense qu'on va vraiment, ça va être difficile. Ça va être très difficile de rester. Il n'y a pas de danger, je pense, a priori, pour le maintien. Mais pour les playoffs, ça va vraiment être très, très difficile. Parce que je ne vois pas cette équipe s'imposer à l'extérieur dans cet état d'esprit-là. Franchement,
James, c'est pas encore, même dans les vestiaires, c'est pas.
Non, il parle un peu. Il parle un peu, mais je pense qu'il est très concentré sur lui-même parce que pour l'instant, il n'est pas terrible. Il n'arrive pas à apporter ce qu'il doit apporter. Il est un peu moins talentueux, il faut le dire aussi, que dans les trois années qu'il a passées ici. Il a un peu de mal pour l'instant. Mais ça a du mal à prendre corps. Et puis voilà, si c'est quand même des matchs qu'on enchaîne quand même. Ça doit être la 8e défaite de suite à l'extérieur, quoi. Ça commence certainement à trotter dans les têtes aussi quand tu prends ton sac et que tu prépares à partir. Tu n'es pas sûr de ramener grand-chose à la maison, quoi.
Donc calendrier possible de se refaire du bien à domicile.
Alors, là, tu as trois matchs. Vendredi, ouais. Tu as trois matchs avant la trêve Mickey. Tu as deux réceptions. Saint-Quentin et Monaco derrière, qui va être un gros morceau le 13. Et ensuite, tu vas à Lille, qui n'est pas au mieux, même si ça va un petit peu mieux, parce qu'ils ont gagné de très peu à Angers, mais donc ça leur a fait du bien, justement. Là, avec, ces trois matchs-là peuvent très vite t'apporter ce que va être la restante de la saison. C'est-à-dire que si tu continues à gagner à domicile, à battre des équipes comme Saint-Quentin, qui sur le papier est une belle équipe, mais pas terrible au niveau des résultats à l'extérieur, mais qui peut être plutôt pas mal. Et surtout si tu bats Monaco derrière, qui est quand même un des poids lourds de la division, ce qui est possible parce qu'Exprimian vient de les battre, qu'on avait battu la semaine dernière, Exprimian. Tu peux donc enchaîner, pourquoi pas, sur un succès à Lille, faire un 3 sur 3, même un 2 sur 3, tu restes en course. Mais par contre, tu peux perdre très bien ces trois matchs-là. T'as pas avec Arniang qui est la semaine prochaine.
Et puis c'est le sud, par exemple, du côté de.
Voilà, il y a du monde en face.
À l'intérieur, ouais.
Ça va être difficile. Donc, je pense que les trois prochains matchs sont un peu la clé de ce qui va apparaître. Si on ne gagne pas au moins deux matchs sur les trois, je pense qu'on va s'apprêter à vivre une deuxième partie de saison qui va être sous la ligne de flottaison, quoi.
Rendez-vous vendredi à Omnisport.
Voilà. Bonne chance à vous.
Merci Philippe.
Je m'en vais parce que j'ai un peu de travail.
Soyez pas
super
triste.
Super beau, je vous laisse avec en bonne compagnie.
Oui, on est en très bonne compagnie. Même.
Voilà.
Merci Philippe. À la semaine prochaine, l'article, demain, un titre dans.
Je vais donner le silence des agneaux.
D'accord, voilà, ça mérite d'être clair.
Au pays des canards, c'est pas terrible.
Ouais. Merci Philippe.
Merci à toi Philippe, à la semaine prochaine du coup.
Mini pause musicale.
Tout à fait.
Et puis on se retrouve justement avec Anne, François, et pour parler de l'ALM section tennis.
les Ramones. Ramones avec Blitzkrieg Bop. Voilà, c'est ce que vous venez d'écouter. On va se retourner plus sérieusement, plus intensément vers nos invités de l'ALM Tennis. Donc on rappelle, François, vous êtes entraîneur, moniteur-entraîneur, on ne savait pas exactement. Mmh. Entraîneur, c'est bien.
Oui, aussi, oui, ça,
ça, ça éducateur, vous êtes.
Hein. Ou éducateur, oui, c'est ça, tout à fait.
Et Annie, présidente donc de ce club ALM Tennis. Alors, est-ce qu'on peut revenir d'abord un petit peu sur, sur ce club? Quelles sont un peu ses valeurs, les valeurs que porte le club, les valeurs qu'elle défend, qu'il défend, pardon?
Bien, Annie. Écoutez, les valeurs du club, c'est le sport pour tous, essayer d'intégrer un maximum de jeunes, surtout que nous sommes quand même situés dans le quartier de la Madeleine, donc bien que nous n'ayons pas un nombre important d'enfants de la Madeleine, mais ça commence à venir. Donc, essayer aussi d'intégrer un maximum de, on va dire, le sport pour les handicapés. Bon, pour l'instant, on a un peu de mal parce que nos structures ne sont pas adaptées à leur venue, mais nous y travaillons. Enfin, nous faisons déjà, enfin, François anime déjà des séances avec des personnes...
En fauteuil, en l'occurrence ?
Non, pas en fauteuil.
Non, c'est handicap mental.
Handicap mental, des déficiences. Moi, j'ai autorisé aussi... un infirmier qui travaille à l'hôpital de Navarre en hôpital de jour à venir pratiquer le tennis avec des personnes non pas déficientes mentales mais un petit peu en perdition à la suite d'un certain nombre d'addictions ou autres et qui pour reprendre pied venaient jouer au tennis. Bon, ça ne s'est pas reproduit depuis mais ça s'est fait l'année dernière. Donc, cela dit, c'est surtout au niveau des jeunes que nous essayons de travailler. D'ailleurs, l'école de tennis comporte combien d'enfants, François ?
165 actuellement.
Ah, 165. C'est énorme.
Ouais, c'est beaucoup.
Mais ça a été plus nombreux que ça.
On a été jusqu'à 200, 210. Quoi. Ah,
c'est voilà. Mais, énorme.
Hein. Bah, oui, en fonction des... Ouais, voilà. Si on se rend compte des infrastructures que l'on a, c'est énorme, oui, ouais. Bien sûr. Ouais, donc, 165, répartis à 60% de garçons, 40% de filles. Une vingtaine de pourcents d'enfants du quartier de la Madeleine, malheureusement.
Oui.
Pourtant, nous offrons des cotisations qui ne me paraissent pas trop élevées.
On allait vous demander,
voilà,
c'est combien le tarif d'une...
C'est 200 euros pour l'année.
200 euros
donc,
pour l'année.
Ça ne nous paraît pas excessif. Avec... Bon, bien sûr, il y a des frais à couvrir.
Oui, mais cela dit, il y a quand même pas mal de jeunes, justement, du quartier de la Madeleine qui bénéficient d'aides ouais. locales.
Alors, ça reste quand même au-dessus, sur toutes les clubs qu'on a reçus, mais on sait que c'est lié aussi à la fédération, sûrement les droits que vous devez reverser, ça reste quand même un peu plus élevé que toutes les disciplines que nous avons déjà reçues. Et il y a peut-être un autre frein, c'est aussi le matériel. C'est-à-dire qu'il y a certains sports, il n'y a peut-être que la paire de chaussures. Là, il y a quand même le besoin de la raquette. Même si pour la pratiquer, je sais que maintenant, ça a baissé ouais. grandement. Je l'expliquerai peut-être ainsi. Et ouais. puis, les jeunes de la Madeleine sont peut-être aussi plus intéressés par le foot.
Par le foot.
À côté de vous, les coquins.
Disons que ce qui fait monter un petit peu la sauce au niveau des cotisations tennis, c'est qu'il y a une exigence au niveau de la fédération française, c'est d'encadrer son école de tennis par des moniteurs brevetés d'État.
Voilà.
Donc, à partir de ce moment-là, ce sont des gens qui sont diplômés, qui ont reçu une formation,
qui
suivent une formation régulière, qui vont à des séances de recyclage, qui sont au fait de tout ce qui se passe au niveau de la nouvelle pédagogie fédérale. Donc, cela implique un coût au niveau du salaire, bien sûr, que ce n'est pas le même prix que si on emploie un bénévole, pas on emploie un bénévole, mais si on fait un appel à un bénévole, hein, j'ai fait un lapsus là qui est peut-être pas révélateur, mais ou bien si on fait appel à un éducateur. Mais à partir du moment où on a fait un appel à un éducateur, breveté, là, les gens sont rémunérés, mais les éducateurs qui ne sont pas brevetés, qui sont rémunérés, là, on n'a pas le droit de le faire. Donc, forcément, au niveau des écoles de tennis structurées, à partir du moment où on a des brevetés d'État, bah, y a un coût.
Ouais,
donc, c'est forcément plus cher. Donc, que ça soit au niveau du tennis ou bien au niveau d'autres sports, à partir du moment où il y a des enseignants professionnels brevetés d'État, il y a un coût. Donc, il y a de la qualité, hein, mais ça a un prix. Voilà. Donc, mais nous, on avait fait un petit bilan au niveau des écoles de tennis au niveau du d'Evreux. Et au niveau du département, et on est très bien situé au niveau au niveau du coût. Hein.
Sur ce montant qu'on a énoncé au départ, il faut retirer le montant de la licence qu'on reverse à la fédération et le montant de la carte ALM qu'on reverse à notre association, parce que nous ne sommes qu'une section de l'association ALM, ce qui fait que bon, on a 35 euros qui ne nous reviennent pas. Donc sur les 200 euros, effectivement, il y a toute une partie. Le reste étant uniquement la cotisation.
Je crois que François avait bien aussi fait de souligner l'histoire de l'éducateur, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de disciplines où on s'appuie sur bon nombre de bénévoles qui peuvent avoir toutes les qualités du monde. Et bien tant sûr, mieux, parce qu'il faut, dans nos clubs, et vous allez nous en parler, je suis sûr qu'il y a des parents qui accompagnent, qui aident, qui font les voyages, qui viennent assister, qui font peut-être des fois arbitre ou autre. Mais il est vrai que derrière, vous proposez en tout cas une formation avec des gens diplômés, qualifiés, avec sûrement peut-être à les amener plus haut nos pitchouns. Donc c'était important à souligner, vous avez bien fait.
Oui, je voulais revenir sur ce souci que vous souleviez vous-même d'avoir des. Est-ce que c'est forcément une constante un peu générale, pas forcément propre à la LM Tennis, d'avoir des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs adhérents des quartiers dits populaires dans une discipline comme le tennis. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu constater ailleurs qu'Évreux? Si vous avez pu voir, je sais pas, d'autres chiffres, d'autres statistiques. Et est-ce que justement, en fait, ce serait pas un souci de déficit d'image qu'aurait, on parlait de la popularité des gamins des quartiers en gros qui préfèrent aller jouer au foot ou faire de la boxe par exemple. Est-ce que c'est pas de ce côté-là où en fait
ils ont peut-être du mal à se connaître dans Richard Gasquet
le tennis souffre peut-être d'une image un peu élitiste entre guillemets quel est votre regard par rapport à ça?
Mon regard est à travers les échos que j'ai, parce que bien sûr depuis le temps que j'enseigne notamment à la LM, j'ai fait quelques petits sondages, j'ai discuté avec les enfants et j'étais surpris de ne pas avoir plus d'enfants du quartier. Donc effectivement, les jeunes du quartier de la Madeleine préfèrent se diriger vers le foot ou le basket, parce que c'est des sports qui sont déjà plus à la mode. Plus en rapport avec la vie de la cité.
Oui, qui est la vie en collectif.
Que je ne veux pas dire par là que le tennis n'est pas en rapport avec la vie de la cité, loin de là, mais ils se reconnaissent plus à travers ces sports de ballon-là que le tennis. Bien qu'il y ait eu des actions de menées au niveau fédéral avec l'action que parraine Yannick Noah qui s'appelle « Faites le mur », et qui ont trouvé des impacts assez intéressants au niveau de... des villes comme Grand Couronne, etc., et qui serait intéressant de développer sur le quartier de la Madeleine. Voilà.
Vous parliez beaucoup des jeunes, mais ça fait combien de licenciés, par exemple, la section LM Tennis dans son an? Parce qu'il y a aussi des gens qui pratiquent pour vraiment le loisir, mais qui sûrement accéder aux cours et autres.
L'an dernier, donc là, on va récupérer des licences au niveau des passes d'été, au printemps, etc. L'an dernier, on a terminé avec 340 licenciés. Donc avec moins 165 enfants en école de tennis, donc ça laisse combien? 240 personnes qui jouent, 140 personnes qui jouent pour le loisir, 150 environ. À l'intérieur, dans ces 150, il y en a une cinquantaine qui suivent des cours adultes, parce que nous encadrons également une école de tennis adulte, donc qui va du débutant au perfectionnement et à l'entraînement. D'accord. Parce que dedans, on entraîne aussi nos joueurs d'équipe qui représentent les couleurs pendant les matchs par équipe de printemps et d'hiver. Et les autres personnes qui sont là que pour le loisir et qui trouvent leur place au sein du club en prenant une cotisation annuelle. Ils utilisent les installations autant de fois qu'ils le veulent.
J'allais vous demander, on voit passer, quand on est sur le périph', la rocade à Évreux, on voit d'un côté il y a la piscine, il y a quelques grandes surfaces et puis on voit ce grand dôme. Combien de terrains déjà? Moi je le sais déjà, mais combien de terrains, vous pouvez nous rappeler techniquement combien de terrains protégés, puis il y en a à l'extérieur de mémoire?
Alors, on a deux terrains couverts et on a quatre terrains extérieurs et un terrain de mini-tennis.
Alors, les terrains extérieurs sont en bon état, parce que c'est aussi la difficulté. Des fois, ils sont...
On est très vigilants. Donc, il y a trois quicks extérieurs. D'accord. Donc, c'est des quicks. C'est une surface dure. Il y a une terre battue synthétique qui est très, très utilisée, notamment par nos vétérans, qui adorent jouer dessus. Donc, c'est très souple, très, très agréable à jouer.
Ils ont moins mal aux jambes.
Voilà. Ça se rapproche énormément de la surface naturelle que nous connaissons, la terre battue, et un terrain de mini-tennis sur lesquels les petits peuvent échanger des balles avec les parents.
Et nous avons installé également un filet de
Beach tennis.
De beach tennis.
D'accord. Alors, c'est cool.
Alors, moi, c'est la nouvelle vogue de la Fédération française de tennis. Donc, ça ressemble un peu à du badminton.
D'accord.
Ça joue avec une raquette pleine, petite raquette de tennis pleine, style paddle.
D'accord.
Avec des trous à l'intérieur. Ou plus ou moins, je crois qu'il y en a.
S'il y a des trous.
Et ça joue sur un terrain de la grandeur d'un terrain de volleyball, je crois. Ouais. Ça joue en double, 2 contre 2. Voilà, avec une balle souple, molle. Voilà.
D'accord, et évidemment sans rebond.
Sans rebond. Bah, sans rebond.
Parce que sur le sable, ça rebondit pas.
Donc
quoi.
Beach tennis, ça joue normalement sur du sable, mais nous, on l'a installé sur du gazon.
Sur du gazon.
Sur de l'herbe, disons. Ouais.
Combien de salariés dans votre club? Il y a François, est-ce qu'il y en a d'autres?
Il y a une autre monitrice donc, qui est salariée comme François et qui est chez nous depuis un petit peu moins longtemps, mais ça doit bien faire une dizaine d'années quand même.
Ah oui, Elodie, ouais. Oui.
Elodie, qui a été formée au club et qui a obtenu son diplôme au sein du club. Quoi.
Alors, quelles sont les missions, un peu les rôles dans l'association de ces deux salariés? Essentiellement l'entraînement, la vie de l'école de tennis?
Alors, essentiellement, effectivement, c'est l'animation de l'école de tennis, mais on peut dire aussi qu'ils animent le club, puisque le gros de l'action est fait par les moniteurs lorsqu'ils font les cours prévus toutes les semaines, le soir et le samedi. Ils ont cours tous les samedis, mais ils participent aussi tous les deux à des stages organisés pendant les vacances, à des actions ponctuelles. Genre galette des rois, des choses comme ça, enfin tournois d'animation, et en même temps du tennis découverte, lorsque l'on peut obtenir des jeunes du quartier. On avait travaillé notamment avec l'équipe des jeunes de la Madeleine là, qui venaient l'été.
La JM peut-être
pas la JM.
Non, l'autre c'est J'ai honte.
Oui, moi aussi.
Alors il y avait Espace Vert, il y avait l'Arche.
Non.
Ah bah alors là, je suis perdu.
Non, c'est l'association qui était au sein de la LM et qui n'y est plus maintenant, qui est partie au sein de la mairie.
Moi, ça ne me revient pas.
Non, moi non plus. Mais enfin, donc il y avait des jeunes qui venaient encadrés par des moniteurs de leur association et qui utilisaient nos terrains l'été. Mais je ne me souviens plus le nom.
En tout cas, vous le disiez, Anne, a priori, c'est accessoirement, en tout cas majoritairement le samedi qu'il y a des cours, le soir, j'imagine, tous les soirs.
Il y a le mercredi toute la journée, le samedi toute la journée et tous les soirs de la semaine.
Tous les soirs de la semaine.
D'accord.
Voilà. Tous les soirs de la semaine.
Il y a des adultes, il y a des jeunes, il y a des entraînements jeunes, entraînements adultes, tous les soirs de la semaine. Principalement, l'école de tennis, ça fonctionne le mercredi après-midi et le samedi après-midi, mais il y a quelques créneaux aussi.
Même s'il y a dû avoir une refonte, on avait parlé au début de l'année, là. On avait entendu vos voix, en fait, dans le petit sujet qu'on avait mené suite à la réforme des rythmes scolaires, et donc potentiellement à des changements au sein des clubs sportifs, parce que attraper les petits, gérer avec les parents l'organisation, vous disiez que vous aviez peur un peu d'un impact, et que clairement, il était là. Donc déjà, un arrangement, parce qu'il a fallu peut-être fusionner des horaires, des cours, rechanger des horaires parce que c'est plus facile pour ces jeunes-là à telle heure, un impact pas que positif du coup.
Oui, c'est ça, on a été impacté un petit peu comme toutes les associations sportives et même culturelles, c'est-à-dire qu'il a fallu reverser les enfants qui utilisaient les créneaux du mercredi matin au mercredi après-midi, sachant que les mercredis après-midi, les créneaux étaient déjà saturés. Donc, on a eu une baisse de 7-8% au niveau de l'effectif de l'école de tennis. On était l'an dernier 175, donc là, on est à 165. Donc, c'est un moindre mal, c'est mesuré, parce que j'ai des collègues qui ont perdu 15-20%. Donc, voilà. Malheureusement, c'est au détriment des enfants. Bon, maintenant, je ne sais pas s'ils s'y retrouvent avec la pâte modelée les après-midi. Je ne sais pas. C'est un autre sujet.
Oui, c'est ça, ça a pu forcer certains parents et du coup certains enfants à faire des choix. S'ils faisaient tennis le matin et puis autre chose l'après-midi, ils ont peut-être
complètement
privilégié.
Et puis il y a l'état de fatigue. Moi, je pense principal frein aussi, c'est l'état de fatigue pour vivre la chose, avoir les minots qui sont 5 matinées quand on est tout jeune et que l'après-midi, avant, l'activité c'était le matin, l'après-midi c'était plus cool ou avec des copains. C'est vrai que c'est peut-être une autre gestion.
Est-ce qu'on peut parler un petit peu d'objectifs sportifs? Est-ce qu'il y a vous êtes fixé des objectifs avec certains joueurs, certains élèves de l'école de tennis? Et du coup, quelles sont les compétitions auxquelles participent certains de ces joueurs?
Et puis les équipes du club?
Voilà.
Bien, à travers notre école de tennis, on essaye bien sûr de maintenir un certain niveau d'adhérents, parce que c'est important pour nous, pour notre formation. Alors, on a un centre de formation interne à l'école de tennis. Ce centre de formation permet d'isoler les meilleurs éléments et de leur donner une heure ou une heure et demie de plus d'entraînement par semaine par rapport aux autres, à condition que ces enfants participent à un programme de compétition établi en début d'année. Notre objectif, c'est de faire découvrir au maximum d'enfants les compétitions, et à travers la nouvelle réforme qui vient d'arriver au niveau de la Fédération française de tennis, c'est une pédagogie qui permet aux tout jeunes de découvrir leur premier match de compétition à travers des terrains aménagés avec des balles de tennis adaptées. Donc c'est tout nouveau, ça vient de sortir. Si vous voulez, je vous en reparlerai dans une autre émission, parce que c'est très très long et assez compliqué. Mais ça, cette nouvelle réforme va permettre de faire découvrir très tôt et très rapidement des compétitions aux très jeunes en les isolant sur une demi-journée. Donc ça ne va pas tellement pénaliser les parents. Et ils feront des matchs par poule, voilà, etc.
Avant de redévelopper sur les résultats, ça me donne envie de vous demander, est-ce que c'est une réponse de la fédération de vous imposer ou de vous motiver à faire la chose, parce que justement les résultats élites de la discipline au niveau individuel et collectif sont pas terribles?
Alors c'est un projet qui émane de la Fédération française de tennis, bien sûr, mais c'est dû à un constat, non pas que l'élite n'était pas du bon niveau, parce que dans les 100 premiers joueurs mondiaux, on est une des nations les plus présentes. Donc, il n'était pas question de cela. Par contre, une chose qui est rare, c'est que la fédération s'est penchée sur les autres enfants, c'est-à-dire ceux qui étaient laissés un petit peu pour compte dans les écoles de tennis. Et on s'est aperçu qu'il y avait un turnover de 30% environ d'enfants qui ne renouvelaient pas les cotisations. Ouais. Donc, de ce fait, la fédération perdait des licenciés. Et pour juguler un peu tout ça, eh bien, elle a lancé cette nouvelle réforme, et qui me paraît très intéressante dans la mesure où je pense que les enfants vont être un petit peu plus accrochés au tennis et à leur club.
Goûter à la compétition.
Voilà, en goûtant plus tôt.
Et du coup, on vous a coupé sur, Guy Monquet, hein, sur les équipes du club. Alors, au-delà d'individuel, les équipes seniors ou jeunes jouent à quel niveau? C'est niveau régional?
Alors, l'équipe 1 senior joue en régional 3.
D'accord.
L'équipe 1 dame joue en excellence régionale.
Au-dessus?
C'est au-dessus. C'est 4 divisions au-dessus.
D'accord.
Voilà. Et voilà, on a une équipe 2 qui joue en département, 2 hommes qui jouent en départemental 1, une équipe 2 dames qui jouent en départemental 1 aussi. On a des équipes vétérans aussi, parce que ça existe aussi au tennis, donc qui jouent au niveau régional, excellence régionale, en plus de 45 ans, en plus de 65 ans aussi. Une équipe en plus de 35 ans qui joue en promotion départementale, juste avant le régional, voilà. Il y a du monde. Il y a également nos équipes de jeunes. Donc, on a toutes nos équipes jeunes jouent en championnat départemental. Il n'existe pas de championnat régionaux au niveau des jeunes. Voilà. Donc, on a 8-10 équipes jeunes. D'accord. Tous les ans.
Toutes ces compétitions, ça a lieu, j'imagine, les week-ends, mais à quelle fréquence? Est-ce que c'est toutes les semaines, il y a des matchs importants, ou c'est plus dilué dans l'année?
Alors, les compétitions par équipe, ça fonctionne au mois d'octobre. Alors, c'est très court au niveau du tennis, c'est un petit peu dommage. Donc, c'est 5 matchs. Il y a 5 matchs en octobre. En novembre, ce sont les compétitions pour les vétérans. Et pour les matchs, le championnat de printemps, parce qu'il y a un championnat d'hiver et un championnat de printemps. Le championnat de printemps, c'est au mois de mai. Et pour les vétérans, c'est un tout petit peu plus tôt. Voilà.
D'accord, et donc cette histoire de...
Entre deux, il y a des tournois individuels, voilà, auxquels les adhérents peuvent participer. Alors donc là, on reçoit des affiches où on est informé par le biais d'Internet, sur la plateforme de la Fédération française, etc.
Ils peuvent y aller de manière individuelle.
Voilà, ouais. Tout à fait. Voilà. Soit ils sont informés par leurs entraîneurs, soit ils sont informés de manière individuelle par une démarche au niveau de la Fédé.
Et du coup là, c'est individuellement que les joueurs s'inscrivent. C'est pas le club qui inscrit le nom du joueur.
Voilà, ça, c'est des démarches individuelles, voilà. Les équipes, c'est une démarche du club, et les inscriptions individuelles en tournoi, c'est personnel.
Et juste revenir sur cette notion tournoi hiver, tournoi printemps-été, c'est clairement pour la saison, et du coup, on imagine que l'hiver, ça joue en salle.
Tout à fait.
Et l'été, oui. Voilà. En extérieur. C'est logique, tout bonnement logique.
On s'accorde une petite pause de musique et puis on revient sur une deuxième partie, parce qu'on parle beaucoup, c'est très intéressant, mais il faut qu'on laisse respirer aussi nos synapses et c'est ce qui circule là-haut. Allez, une petite pause musicale, tiens, c'est moi qui vous me l'offrez, s'il vous plaît, très cher. Allez, c'est parti. du gypsy croate. Tu y crois ou tu y crois pas? Ouais, bah ouais, pourtant c'était le cas.
C'était Mario, non?
Non, c'était pas Mario. Ah bon, le morceau c'était Rag et l'artiste j'ai oublié. Donc bah voilà, petit clin d'œil.
Ça ressemblait à Mario, la musique de Mario.
Pardon. Ouais, ça ressemblait à ça, mais ce n'était pas ça. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, on pourra vous redire dans l'absolu sur une autre playlist. Si Dynamite Duo, ça vient de sortir, c'est croate, c'est du gypsy et c'était sympa.
Voilà. C'était mignon.
On reprend toujours avec en compagnie de François et de Anne et de Anne pardon et d'Annie.
Annie
pardonnez-moi. Il y a le 2 Annie et Dani. Voilà sur cette section ALM tennis club ancestral, on l'a pas évoqué mais c'est un club qui est vieux sur Évran, enfin qui existe depuis très longtemps, une vingtaine, trentaine d'années.
Alors il existe depuis 1977, je dirais.
Donc ça veut dire
en tant qu'affilié à la fédération.
23, 15,
mais il a commencé avant, c'est-à-dire qu'il y avait un seul terrain rue Michelet. Il y avait un terrain entre les immeubles, là, la Madeleine. Et puis, il s'est trouvé qu'on avait 300 licenciés sur un terrain.
Aïe.
Ça commençait à faire beaucoup.
Ouais, peut-être, ouais, oui.
Donc, bah, il y en avait très peu qui pouvaient jouer. Et M. Casano, on lui a proposé, à l'époque, c'était lui la personne qui s'en chargeait, on lui a proposé de prendre la présidence, qu'il a pris et qu'il a quitté il y a 2 ans.
Pour ouais. Donc, il a été le président
pendant
historique du club.
Pendant 39 ans.
D'accord,
39
énorme.
Ans. Et il a participé à la création des cours découverts là où ils sont actuellement, des deux cours
ouais,
couverts. Enfin bon,
il a tout vu.
Il a créé le club pratiquement.
Énorme.
Et puis bon, il y a 2 ans, il a eu envie un peu de lever le pied.
Alors j'allais vous demander justement, Annie, vous c'est venu naturellement. Vous étiez par exemple déjà au bureau, déjà investi, une maman d'un jeune du club. Comment ça s'est passé, vous, l'intégration au sein de ce club et d'en venir la présidente?
Alors, mon intégration, elle a eu lieu en 78, donc très peu après la création du club. Moi, je ne suis pas du tout d'Évreux, donc je suis arrivée à Évreux pour des raisons professionnelles en 78. Et mon mari jouait au tennis et donc on a contacté le club qui était en face de chez nous,
ouais,
on
voilà.
était tout près. Et je suis rentrée au bureau en même temps. Et donc,
ah, donc vous, historiquement ouais, aussi, depuis très longtemps.
J'y suis depuis 78, ouais.
D'accord.
J'ai d'abord été secrétaire, ensuite trésorière et membre du bureau, tout simplement. Et il y a 2 ans, quand M. Casano a souhaité lever un peu le pied en tant que président, et ça se comprenait au bout de 39 ans, comme j'allais être en retraite, j'ai accepté de prendre le poste.
D'accord.
Voilà. Donc,
François, au club depuis combien de temps?
Je suis enseignant depuis 1989. J'ai pris ma licence depuis... je suis enseignant depuis 92. Donc ça fait 24 ans. 23 ans, j'avais pris ma licence en 1989.
Au club de l'ALM,
de l'ALM.
Parce qu'on ne parle pas d'infidélité, mais vous auriez pu très bien enseigner ailleurs ou autre.
Il m'arrive d'enseigner ailleurs, parce que j'ai une double casquette, donc j'ai des interventions dans des autres clubs. Mais mon club principal, mon club d'attache et de cœur, c'est bien sûr l'ALM Évreux.
Ah, c'est beau. Mmh. Toujours du tennis, j'allais vous demander un petit peu, Annie, bon, je vais me permettre de me retourner vers Annie, votre mari le tennis, mais vous-même pratiquante un petit peu ou beaucoup
c'est, Non, c'est... pas beaucoup, un petit peu. Bon, je sais jouer, mais je n'ai jamais joué en équipe ni fait de compétition.
Mais vous avez plaisir à pratiquer le tennis.
Oui, tout à fait, je pratique toujours.
Depuis toujours? Ou il y a eu d'autres disciplines, d'autres sports qui ont croisé vos jambes et vos tenues sportives?
D'autres disciplines, je ne vais pas dire d'autres disciplines, mais du sport tous azimuts, un petit peu, oui.
D'accord, vous êtes quelqu'un qui aimait pratiquer le sport.
Voilà, je suis un peu sportive, dirons-nous.
Ah, mais il n'y a pas de petit ou beaucoup, il y a des pratiquants. François, du handball, c'est
oui,
ça?
Oui, j'ai fait du hand, donc j'ai commencé très tôt, j'ai commencé à 6 ans, parce que bon, mon papa a fait partie de la création du premier club de handball sur Évreux.
Voilà, donc alors, c'est la SPTT pour le coup.
La SPTT, ouais, voilà. La SPTT. Donc, qui jouait il y a très très longtemps. Voilà, la SPTT Évreux. Donc, moi, j'ai suivi les marches de mon papa et la marche de mon papa et j'ai fait du hand pendant 16 ou 17 ans. Et après, j'ai découvert le tennis parallèlement vers l'âge de 16-17 ans aussi. Et donc, à un moment donné, il fallait faire un choix. Et comme je me débrouillais pas mal au tennis, et ben, je me suis dit, allez hop, je me lance là-dedans. Et puis voilà, j'ai commencé ma première compétition à 18 ans. Donc, j'ai
pas commencé tard dans l'absolu, dans le milieu.
Tout à fait, ouais, tout à fait. Ouais, je sortais du giron fédéral. Quoi. Donc, ouais, non, j'ai commencé très tard. Mais voilà, donc je suis devenu prof de tennis. Voilà, c'est un peu étonnant, mais c'est comme ça.
Une petite question comme ça, quelle différence on fait notamment mentale en termes de préparation pour un match, hein, pas forcément de la haute compétition, mais quelle différence on fait entre un sport co comme le hand et le tennis?
Énorme.
Est-ce qu'il y a une voilà, est-ce que mentalement c'est à peu de choses près la même chose quand on va jouer un match, ou en fait ça n'a rien à voir du fait que ce soit un sport individuel et d'un côté et l'autre collectif?
Alors c'est un peu les deux, hein. C'est un peu les deux, mon capitaine, parce que le sport, le tennis, c'est un sport bien sûr individuel. Je pense qu'on a besoin, de s'isoler un petit peu avant un match, s'isoler, se préparer. Il y a toute une préparation avant, la préparation mentale, ça intervient dans l'échauffement, qui doit normalement avoir lieu en dehors du court. Voilà, donc une période d'un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure d'échauffement en dehors du court, et c'est là où on fait notre préparation mentale avant les matchs. Voilà comment ça se passe. Bien sûr, il y a une autre approche au niveau des entraînements, etc. Mais voilà un petit peu le déroulement d'une approche avant un match. En ce qui concerne le handball, ou le handball que je connais, mais le sport collectif, eh bien, il y a une approche aussi mentale, mais elle est bien sûr différente dans la mesure où elle est réalisée en groupe. Donc, mais dans le groupe, chaque personne a une tâche bien individuelle à respecter. Que l'on soit défenseur, attaquant, ou bien même, intervenir si jamais le partenaire a besoin d'aide, etc. Donc, tout est lié, à mon avis. Voilà, mais l'approche mentale, c'est aussi pendant l'échauffement, pendant les sports courts. Voilà comment je l'ai ressenti, moi, ayant pratiqué les deux sports.
Hein. Ah, moi, je l'ai pratiqué les deux, hein, Guimauquet, c'est... Moi, je dirais que c'est jour et la nuit. Hein. Clairement, on est seul derrière sa ligne avec sa raquette, à cogiter, à s'en vouloir sur un point qu'on a loupé bêtement. Dans le handball, l'avantage dans un sport co, c'est que voilà, on peut pallier à une défection sur un de ses coéquipiers. On va bloquer, on va aider, on va accompagner. Et là, c'est vrai que le tennis, on peut avoir de longs passages à vide. D'où parfois ce qu'on peut voir à la télé. Hein.
La défaite est... plus lourdement ressenti lors d'un match de tennis. On est très content d'avoir des copains quand on joue dans un sport collectif et quand on perd.
C'est ce qui fait aussi, je trouve, l'attrait de cette discipline. C'est que, bien sûr, il y a beaucoup de besoins de qualité technique, physique, mais technique. Mais il y a aussi besoin d'une force mentale, clairement.
Tout à fait. Voilà. Ça sert pour... je pense que ça sert énormément pour la vie professionnelle, la vie privée, complètement.
Je pense. Annie, vous vouliez rajouter quelque chose?
Je voulais juste rajouter que le mental, il est totalement différent aussi lorsqu'on joue pour soi, si on s'inscrit dans un tournoi personnellement, et lorsqu'on joue pour le club équipe. Donc lorsqu'on est avec une équipe, le mental, il est peut-être même presque plus important parce qu'on a peur de faire perdre l'équipe.
Mais en même temps, ça peut donner
des encouragements. Ouais,
surtout si c'est le match décisif, si on est le dernier à jouer et qu'il y a un partout dans l'équipe et que il faut aller glaner un point ou deux partout.
C'est toujours deux individuels et un double. C'est comment?
Ça dépend des
compétitions.
En généralité,
en hiver, c'est deux simples et un double. Et au printemps, c'est 4 simples et un double.
Ah oui, c'est plus loin.
On a obligation, je crois, de mettre son mieux classé en numéro 1.
Voilà, tout à fait. Il y a un ordre hiérarchique.
Sais que mon mari, qui pratique le tennis depuis très longtemps, il est beaucoup plus angoissé lorsqu'il joue pour l'équipe que lorsqu'il joue pour lui.
Mais le supplément d'âme qui peut être donné au fait qu'on soit par équipe, il donne pas une force supplémentaire
Si, je pense. Oui.
On est obligé de vous demander, même si ça a été quelque peu abordé à travers des organisations et des dispositifs mis en place, le lien avec la fédération. Annie, je vais me tourner vers vous, mais François, à tout moment, vous intervenez bien sûr. Comment ça se passe? On parlait de la Ligue de Normandie, donc déjà, elle est constituée des 5 départements, des 5 comités. Est-ce qu'il y a un regard bienveillant, il y a un réel échange régulier sur des besoins de conseils, de renseignements, même des fois de matériel ou même l'aspect financier? Et quelle est cette relation avec le comité départemental et donc plus grandement avec la fédération au niveau, on va dire, régional, puisque c'est... Comment ça se passe? Vous pouvez, on a le droit de tout dire, que c'est cool ou pas cool.
Si c'est cool pour nous, on a des contacts, pas directement avec la fédération, mais avec la Ligue. Ils ont des conseillers en développement que l'on peut appeler lorsque l'on veut, lorsqu'on en a besoin, quand on veut, échanger avec eux. Ils se déplacent dans les clubs pour des missions de conseil, notamment pour les demandes de subventions et autres. Ils passent nous voir et nous disent, cette année, la fédération a mis l'accent sur tel telle problématique ou telle façon de procéder, et on essaie d'être dans les clous, quoi. Et puis, au plus proche, on a le CDET, qui est le comité départemental, qui est dans l'heure, là. Et là, c'est pareil, on est très, très bien suivi.
Vous êtes bien...
Ah oui, on est bien épaulés, oui.
Et avec les autres clubs de tennis, sur le territoire, dans le coin, on ne se tire pas trop la bourse, ça va sur les noms d'adhérents. Parce que le tennis, on a quand même cette... Bah, après, on peut imaginer tout, mais dans l'absolu, on peut toujours quand même imaginer que ça reste toujours un sport noble. Toutes les pratiques sportives sont nobles, bien sûr. Mais voilà, il y a un côté panache dans le milieu du tennis, on va dire.
Moi, je ne suis pas assez ancienne dans le rôle de présidente pour me rendre compte de ça.
On va peut-être se tourner sur François qui tourne dans plusieurs clubs, lui.
Je sais que ça peut exister, les petites rivalités entre clubs.
Forcément, c'est humain.
Notamment lorsqu'ils sont dans la même ville.
Bien sûr, évidemment, on ne va pas se voiler la face. Il existe des rivalités, bien sûr.
Parce qu'à Évreux, il y a quand même deux clubs emblématiques. Moi, je veux dire, l'ALM, pour moi, c'est fort, mais l'EAC aussi.
Non, mais il y a 8 clubs de tennis, Évreux.
C'est énorme.
8 clubs de tennis. Donc, quand vous savez que chaque club engage des sommes, etc., qu'il y a un investissement personnel, financier, etc., eh bien, il y a de la concurrence. Donc, il faut faire avec. Alors, on a parfois des bonnes relations, parfois de moins bonnes. Donc, il faut faire avec.
Ouais, c'est vrai qu'on a beau imaginer, mais c'est vrai qu'on est une terre de tennis. On parle souvent d'une terre de basket, mais c'est vrai que c'est peut-être le deuxième sport, Évreux, en nombre de licenciés, si vous me dites 8 clubs.
Ça représente 1300-1400 licenciés.
Rien que sur Évreux.
Oui, sur Évreux.
On ne parle pas de Gravignon, on ne parle pas de Saint-Cé.
Alors, si, j'étends à la communauté d'Aglo.
D'accord. Oui.
Gravignon, voilà. Saint-Cé, Yahué, j'avais comptabilisé les 8 clubs affiliés. Hein. Donc Saint-Sébastien, les 3 clubs d'Évreux, Saint-Michel, l'EAC, ALM. Il y a Nétreville, il y a Gravigny, Saint-Sébastien et Huet, ça fait 8.
Ouais.
Voilà, il y a Évreux-Navarre, Nétreville qui ont fusionné, hein, qui est anciennement SPTT aussi. Voilà, donc ça présente 8 clubs, mais ça fait 1400 licences.
Ouais,
Désolé, je
reviens un petit peu en arrière. Tout à l'heure, on disait vous trouviez qu'il n'y avait pas assez de jeunes de la Madeleine, notamment à la LM Tennis. Ils viennent d'où, en fait, vous savez un petit peu?
Oui.
Des quatre coins d'Évreux, d'un peu plus loin, du département
Je pense qu'on est pas mal, répartis de manière géographique au niveau des clubs d'Évreux. Donc, la LM, ça jugule pas mal d'enfants de... Ça draine beaucoup d'enfants, pardon, de Guichainville, Angerville. Il y a Évreux Centre aussi. Nétreville, un petit peu, mais plutôt ce secteur-là. Il y a Grosœuvre, il y a un petit peu d'enfants de Saint-André.
Les communes, derrière.
Secteur géographique, là, voilà.
Saint-André d'Anville peuvent être des clubs...
Voilà, quoique d'Anville a un club de tennis.
D'Anville a un club très bien aussi.
Il y a un club de tennis à d'Anville. Donc voilà, donc plutôt ce secteur géographique-là.
Donc au final, ça se passe plutôt bien. Vous ne marchez pas sur les plates-bandes des autres et inversement, en termes de licenciés,
voilà,
de provenance.
Voilà, c'est ça. Oui. Je pense que les gens choisissent en priorité le club qui est le plus près de chez lui. Hein.
Oui, voilà. Normal. Je pense que c'est comme ça que ça fonctionne.
Et puis dès que l'accueil est bon et a priori, c'est ce que vous dégagez. on y reste. On en parlait en micro à l'époque. La LM était presque un club élite sur les jeunes. Il y avait une espèce de pôle. En tout cas, moi, j'avais vécu la chose. Est-ce que ça existe toujours, ce genre de pratique? Et est-ce que vous êtes toujours l'un des emblèmes du département?
On a perdu, parfois on perdait notre label de club formateur, parfois on le retrouvait. Ça dépend des années, ça dépend de la mouture. Mais actuellement, nous avons 4 enfants qui sont entraînés départementaux. Donc ça donne une bonne idée de la qualité de la formation qui est mise en place au club.
Alors du coup, c'est même pas forcément vous, François, qui les entraînez.
J'en entraîne quelques-uns. Ma collègue Elodie en entraîne. Mais parfois, il y a l'entraîneur départemental qui s'occupe aussi de ces entraînements supplémentaires.
On parle de directeur technique national, on parle des DTN, mais comment il s'appelle justement?
Le CSD, conseiller sportif départemental.
Merci. Il y avait un Philippe...
Alors, Philippe Bréchon, effectivement, qui a pris sa retraite l'an dernier, qui était remplacé...
Il était encore là l'année dernière,
voilà.
Il était encore là. Alors, il faut savoir, il y a le Philippe qui vient, là, et c'est une star. Ce Philippe-là, c'est un personnage aussi.
C'est un personnage, bien sûr, il est très connu dans le monde du tennis. Et il a été remplacé par Arnaud Leroux.
D'accord.
Voilà, qui est le CSD actuel. Voilà.
Très bien. C'est pas la même intensité quand on en parle, mais dans la voix, mais il vient d'arriver en même temps, le monsieur.
Non, mais c'est quelqu'un que je connais très bien, qui est très très compétent également. Non, pas de problème.
On conclurait bien avec une dernière question un peu large, un peu ouverte. D'abord, un souvenir marquant, notamment en lien avec votre club de l'ALM Tennis, et puis un rêve ou des rêves ou des objectifs.
Souhaits ou la baguette magique, qu'est-ce qu'on pourrait y amener? Alors, individuellement, je vous en prie. Annie.
Un côté, regarde dans le rétro et de l'autre vers l'avenir.
Un souvenir marquant. Mais il peut être anecdotique ou quoi, mais qui vous a marqué, vous?
Alors, moi, le souvenir marquant que j'ai, c'est que le club de l'ALM Tennis a été fait dans les années 70. Et petit à petit, il s'est agrandi. Mais le fait marquant, c'est qu'il s'est souvent agrandi avec la participation des bénévoles du club, et notamment mon père, pour la construction du mur. Donc ce mur, c'est un mur qui ne sert presque plus. Puisque maintenant, on n'inclut pas dans la formation des enfants l'utilisation du mur. Tout le monde peut y aller, mais il est très très peu utilisé. Donc je pense que ce mur, qui est actuellement sur nos terrains, va peut-être un jour disparaître. Et le souhait, c'est qu'il soit remplacé par un terrain couvert. Ça fait des années qu'on espère avoir un troisième terrain couvert. Parce que quand on disait tout à l'heure que le championnat de printemps, c'était dehors, et le championnat d'hiver, c'était dedans.
Ouais,
mais en Normandie, c'est souvent dedans, quoi qu'il arrive. Donc voilà. Ça manque, parce que quand il y a des compétitions et qu'il y en a pratiquement tous les dimanches, nos adhérents qui sont là pour le loisir n'ont plus beaucoup de créneaux. Ouais. Donc, on aimerait pouvoir leur permettre d'avoir un créneau supplémentaire, donc un terrain couvert supplémentaire.
On l'a dit en micro, mais c'est vrai qu'actuellement, on ne peut pas se renseigner. Bon, il y a du monde peut-être au clubhouse, mais vous êtes délocalisé actuellement.
Oui, puisque la toiture est en train d'être refaite. Bon, ce n'est pas la saison idéale, effectivement. Et donc, le club est fermé. Mais nous avons été hébergés dans les locaux de la Rougemare, qui était aussi un ancien club de tennis. Et à la Rougemare, maintenant, depuis aujourd'hui, nous n'avons plus de permanent, puisqu'on avait une personne employée municipale qui était mise à disposition de l'ALM et détachée au tennis, qui a été récupérée par la mairie pour des questions budgétaires, et qui n'est plus le permanent au club. Donc, effectivement, là, on essaie de tourner, nous, en tant que bénévoles, ou les personnes du bureau, pour ouvrir un maximum d'heures pour que les adhérents soient...
Alors c'est combien de temps les travaux là? Vous avez une date? Alors, on sait que c'est compliqué parce que quand on parle de travaux, c'est aujourd'hui, on repousse, mais...
On n'a pas de date parce que ça devait déjà être fait au mois de novembre, donc vous voyez, on est en janvier, on est même en février, c'est toujours pas fini.
Mais ça a démarré quand du coup?
Ça a démarré le 10 décembre, je crois, quelque chose comme ça.
Ça fait plus d'un an déjà que vous êtes un peu pénalisé, quoi. Après vous serez confort, sûrement mieux.
J'espère, mais le problème c'est que les intempéries...
Il va falloir récupérer les terrains là, parce que...
Les intempéries ne facilitent pas les choses.
Bah oui. Voilà. Bon, alors en même temps là, Annie, il y a eu à la fois le souvenir, ce mur là qui vous a marqué, parce qu'on n'a pas parlé de cette pratique là. Moi j'ai moi-même pratiqué le tennis et j'ai démarré sur le mur. Voilà,
oui,
j'avais pas de copain pour jouer, moi j'ai joué le mur, quoi. C'était il me battait souvent, moi-même des fois je me persuadais que je battais, mais c'est vrai que c'est un moment fort parce qu'on disait toujours c'est un sport individuel, c'est dur, faut toujours un copain pour jouer. Non, plus qu'au foot. Au foot, quand t'es tout seul, c'est plus compliqué d'aller chercher ballon dans les buts et tout. Là, la balle elle te revient. Et c'est dommage, ça se perd un peu cette pratique là. Oui, c'est vrai qu'on aura pu l'évoquer. Donc du coup, il y avait ce mur là en clin d'œil, et puis il y a l'envie donc de finaliser ces travaux et d'avoir potentiellement un troisième court protégé, clairement.
Oui, tout à fait. Mais ça fait déjà, M. Casano, en tant que président, ça fait une quinzaine d'années qu'il demande
qui
milite pour la chose. Il y a eu des dossiers de déposés.
Il y a la ville qui peut aider, mais la Fédé, elle peut rentrer en compte dans ces cas-là.
La Fédé peut rentrer en compte, mais c'est surtout la ville, puisque les terrains sont à la ville. Donc nous sommes installés sur des équipements, sur des installations municipales.
Vous parlez de la Rougemare, qui est au cœur d'un autre sujet. Hein,
voilà,
parce qu'on parle potentiellement d'une future salle des sports, ou en tout cas, ces idées possibles à Évreux, d'un grand complexe sportif qui serait potentiellement sur cette zone-là de Netruil, puisqu'elle a été déclarée récemment zone prioritaire, et avec des moyens financiers et des crédits supplémentaires. Donc ouais, c'est assez particulier cette histoire-là. François, un souvenir marquant, une anecdote justement, un plaisir, plus que peut-être un fiston ou quoi, qui joue au tennis aujourd'hui?
Alors un plaisir sportif à l'ALM Tennis, c'était l'accession en National 4 de notre équipe 1 homme en 2004. Voilà, je trouve que c'était un exploit local qui n'a pas été tellement relayé, parce que n'oublions pas que nous sommes un club de quartier. Et avec très peu de moyens, en fait, on est arrivé à hisser notre équipe un homme avec une bande de copains en National 4.
Alors donc, que voilà. Peut-être qu'à ce niveau-là, ce sont quand même des gens déjà qui sont un peu mercenaires, qui peuvent venir de gauche-droite et qui créent des équipes.
Tout à fait. Voilà, donc ça a duré qu'un an.
Bravo.
Bien sûr, pour des raisons financières, évidemment. Ouais. Donc, mais voilà, on était contents de réussir le coup et voilà. Et un autre aspect aussi, un autre fait marquant de ma carrière, c'était la réalisation de faire passer le diplôme d'État à deux personnes au club qui lui ont permis de maintenant être enseignant et de pouvoir vivre de leur passion. Je pense à Christophe Boudier, notre premier jeune que l'on a, qui n'était pas issu de notre club mais qui nous a rejoint et avec qui on a fait une formation commune. J'ai été son tuteur et il a obtenu son diplôme d'État. Chouette, ouais. Donc maintenant, il est parti dans une autre région, mais il a un diplôme en poche. Et ma collègue actuelle, qui est Élodie Saint-Giorgio, qui a obtenu son diplôme il y a quelques années. Voilà, donc ça a permis à deux personnes au moins d'avoir un emploi. Et ça, je pense que j'en suis très fier, au moins aussi fier que les plus grands titres que j'ai gagnés.
Oui, c'est ce que j'allais dire, susciter des vocations comme ça et réussir à transformer l'essai et à faire que quelqu'un devienne entraîneur en l'occurrence. Et on pourrait comparer avec plein d'autres choses, d'autres professions. Mais c'est vrai que susciter des vocations, c'est presque mieux, entre guillemets, plus glorifiant peut-être que les plus grands titres qu'on puisse gagner, c'est transmettre et partager,
voilà.
Quoi.
Tout à fait, c'est ça. C'est une autre, c'est un autre retour aussi. Voilà.
Un souhait ou s'il y avait une baguette magique. Alors troisième cours, j'imagine.
Voilà, comme ouais. Dit ma présidente. Bah, un troisième cours, oui, pourquoi pas. Ça serait bien. Pourquoi pas. Bien sûr, ça fait 15 ans qu'on a déposé un projet.
Ouais, ça commence à être pénible, j'imagine.
Voilà, donc c'est sûr, on pourrait faire évoluer notre politique et puis faire plaisir surtout à nos adhérents qui peuvent difficilement jouer en soirée ou le week-end, même si on n'est pas joueur de tennis de compétition, qu'on est joueur lambda. Bah, c'est difficile de jouer au tennis sur court couvert à Évreux et pourtant il y a beaucoup de monde. Voilà, donc j'espère qu'on l'obtiendra ce troisième cours.
À Évreux peut-être pas, mais à la Madeleine c'est dur.
C'est clair.
Très bien.
On n'en avait pas parlé, mais pour finir, donc il y a bien sûr la municipalité qui est un apport important, mais on aime à le dire, même si sur l'antenne de Principe Actif, pour rappel, pour celles et ceux qui nous découvrent aujourd'hui, on n'est pas des grands ou en tout cas on n'est pas très publicité. C'est vrai qu'on essaye au mieux d'éviter tout ce qu'on qualifierait nous potentiellement de pollution. Ça ne regarde que nous, mais je crois que Guimauque et moi partageons le même avis. Est-ce qu'il y a des partenaires privés? Parce que c'est vrai que nous, il n'y en a pas sur l'antenne. On passe à côté peut-être d'une donne financière, mais est-ce qu'ils ne sont pas soulignés? Est-ce qu'il y a deux, trois partenaires privés importants comme ça que vous souhaiteriez souligner? Vous avez dit l'apport des bénévoles, c'est sûr, c'est fait. La fédération a priori un lien important, intéressant. Est-ce qu'au cas où, voilà, il y avait des gens comme ça, des entreprises que vous souhaitiez mettre en lumière ou en avant? Voilà, on se doit, nous, sachez-le, auditeurs, auditrices, c'est pas la demande des clubs, hein, c'est nous-mêmes qui avions envie de mettre en exergue quelques biens. Donateur.
Alors c'est un domaine effectivement dans lequel nous devons faire des progrès parce que bon, nous avons très peu de sponsors, mais nous avons notamment la SOFAG qui est l'entreprise de monsieur Rostol, enfin qui l'a vendu mais qui était toujours à lui à ce moment-là. Nous avons Olivier Tépé, nous avons Plombéco, Normand Vert et puis Décathlon.
Qui vous file des coups de pouce ou alors sur du matériel ou
des... Avec qui on a un partenariat.
Avec Aide,
la société Aide, équipementier, fabricant de raquettes.
Qui équipe nos moniteurs et voilà. Donc, et c'est vrai que sinon, on a un peu
c'est
de
encore
mal.
Plus dur, ouais.
On a un peu de mal à trouver des sponsors, mais au sein du bureau, on y travaille.
D'accord.
On y travaille.
Est-ce qu'on a omis d'évoquer quelque chose qui vous semblerait fort? Parce qu'on a toujours du mal, nous, avec les horaires, mais là, je m'aperçois que presque si on poussait le bouchon, on pourrait finir à l'heure précise. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça que vous... moi, je vous ai pas redemandé, parce qu'on parlait du mur, mais maintenant, les nouveaux équipements qu'on avait vus arriver sur le marché, c'était ces fameux lanceurs de balles. Est-ce qu'ils sont améliorés? Est-ce que vous en avez? Est-ce que ça sert à rien? Parce que moi, j'étais pas trop emballé par la chose. Hein,
Je pense qu'au club, on n'en a jamais eu. D'accord. De lanceurs de balles. Nos lanceurs de balles sont nos moniteurs.
Nous. Voilà, on les lance très bien.
C'est ce qui me
Ils
semble.
Sont experts. Non, mais
c'est
vrai que
c'est rarement pas, en panne.
C'est pas, ouais, voilà, c'est pas voilà. Le même regard voilà. Sur la chose, voilà. Mais certains l'utilisaient, l'accompagnaient. Vous, pas du tout.
Voilà, non, on ne l'utilise pas du tout. D'accord. On avait fait un essai quelques temps au club. Bon, ça n'a pas été... c'est plutôt un gadget, quoi. Hein, ouais, ça peut être utilisé pendant les stages pour les enfants. Les enfants aiment bien ça. On a un radar aussi, c'est sympa.
Ah, c'est ça, quoi, ça?
Alors, un radar, ça permet de mesurer la
vitesse. La vitesse.
D'accord, vous en avez un.
Oui, on en a un.
Moi, je n'y étais pas sur le radar. Ouais, ouais, bah,
c'est la même chose que non, pour,
pourquoi vous rigolez parce que vous
vitesse.
L'utilisez pour d'autres choses aussi, c'est lancer de tarte à la crème, c'est quoi, c'est... qu'est-ce que vous avez chronométré de trucs bizarres un peu là sûrement là.
Non non, il n'y a rien eu de bizarre. Non, c'est non, le radar on l'utilise pour non, pour mesurer la vitesse au service uniquement.
D'accord. Voilà. D'accord. On n'a pas parlé du tout technique hein, mais vous êtes plutôt revers à deux mains, une main, vous slicez beaucoup, on aurait pu parler de tous les effets hein, choses qui sont pas très bien expliquées hein, dans le monde du tennis pro, mais on va pas prendre le temps maintenant. Mais
alors moi en tant qu'enseignant, ni pour ni contre le revers à une main ou deux mains, je trouve que de toute façon chacun ont leur spécificité. On s'aperçoit qu'au haut niveau, les meilleurs joueurs mondiaux utilisent à la fois le revers à deux mains, une main. J'ai pour exemple Djokovic, Nadal, qui joue à la fois deux mains ou une main. Il n'y a que Roger Federer qui se démarque en faisant un revers à une main. Sinon, les autres joueurs alternent. Murray, que l'on a vu contre Djokovic en finale de Melbourne, utilise tous les deux des revers à deux mains et des revers à une main. Donc, je pense qu'on peut. Le tennis moderne fait qu'on a besoin de ces deux coups-là.
Ah, parce qu'à l'époque, moi j'ai le souvenir qu'on freinait même le revers à deux mains. Moi, il y a une vingtaine d'années, il y a eu une période, en tout cas, voilà. Dans les préceptes des fédérations ou des entraîneurs que j'avais croisés.
Après, c'était l'inverse. On freinait le revers à une main et bon, maintenant, on s'aperçoit que pour varier les effets, les trajectoires, etc., c'est bien d'utiliser les deux.
Je pense qu'on a été complet, ami Guy Mouquet.
Tout à fait.
Vous avez été de très agréables et très intéressants invités, très chers.
Je vous remercie.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Donc, on rappelle François Godard, entraîneur à la LM Tennis, et donc accompagné d'Annie Pétillon, présidente de ce club LM Tennis. Merci à vous deux d'être passés par nos micros.
Donc, pour avoir des renseignements, on va à la Rougemar, sur les horaires d'entraînement, le soir, le mercredi ou le samedi.
Tout à fait.
Où il y a un site, un blog.
Alors, on a un site internet. Donc, vous allez sur votre moteur de recherche préféré, et puis vous tapez ALM Tennis Évreux, vous allez tomber sur notre site.
Voilà.
Et il y aura tous les renseignements, vous consultez les pages du site.
Les mails,
voilà.
Les téléphones.
Les téléphones, voilà, tout est dessus.
Il y a tout. Voilà, la petite balle jaune vit bien du côté de l'ALM, on l'a bien compris.
Voilà.
Merci, patron, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, on n'a pas encore le nom de notre invité, mais nous l'aurons très prochainement.
Nous l'aurons.
On devrait avoir des nouvelles de l'EAC Rugby avec Kevin Volard. On a eu un échange
de texte. Parce que si vous dites trop son nom, je pense qu'il
ne va pas être content. Ouais. D'accord.
C'est le feu patron du Café des Sports.
Exactement.
On vous rappelle qu'aujourd'hui, il y a une rediff à 15h, qu'il y a Radio Lomax, Mixture étranger-étranger, La Factory. Puis on finira avec It's Time, invité Def du Havre. Et ça fait du bien. Voilà, c'est dit, c'est fait. Bonne journée à toutes et tous. Merci encore.
Merci,
dames.
Merci à vous.